La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés stipule qu'un réfugié est une personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, sa religion, des nationalités, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qu'elle ne peut, ou du fait de ses crainte, ne veut se réclamer de la protection de ses pays. Ou qui, si elle n'a pas de nationalité, se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de la dite crainte, ne veut retourner. Les personnes LGBTQIA relèvent-elles de l'un des motifs ci-dessus? Il est à noter que le motif de l'orientation sexuelle et l'identité de genre, SOGI en anglais, n'a jamais été identifié comme un motif individuel au sein de la communauté internationale. L'une des raisons pourrait être la réticence de certains pays à reconnaître les droits des LGBT. En outre, on a tendance à rencontrer des difficultés pour définir les concepts de groupe social, car il n'est pas défini dans la Convention sur les réfugiés surmentionnés. C'est le début de la lutte des réfugiés LGBT. Un examen à plus approfondi, par exemple du droit européen, met à nouveau en évidence ces problèmes. Ils sont donc catégorisés comme un groupe social particulier. Outre l'idée que les réfugiés homosexuels sont membres d'un groupe social particulier, comme mentionné ci-dessus, la définition de réfugié stipule que pour cette raison, il existe une crainte fondée de persécution. En d'autres termes, les réfugiés homosexuels doivent démontrer qu'ils craignent pour leur sécurité et leur stabilité dans leur pays d'origine parce qu'ils sont queer. Ils doivent convaincre les décideurs en matière d'asile en fournissant des preuves de leur demande. La norme de preuve, selon le HCR et l'EASO, est raisonnable, ce qui signifie que la norme est faible et que le demandeur se voit accorder les bénéfices du doute. Toutefois, dans la pratique, les autorités appliquent souvent une norme plus élevée, ce qui rend l'accès à la protection internationale plus difficile. La situation locale dans les pays d'origine peut souvent être expliquée et prouvée par les rapports d'institutions officielles comme les ONG. En effet, comme mentionné ci-dessus, les motifs de groupe social contiennent deux aspects de la vie d'une personne. L'auto-identification et la perception par la société des SOGI en tant que groupe social distant. En ce qui concerne les antécédents personnels, l'accent est généralement mis sur la cohérence et la constance, ainsi que sur des preuves substantielles telles que des photographies et ou des vidéos personnelles, de reportages dans les médias locaux et nationaux, l'engagement dans des associations LGBT, etc. La difficulté réside dans le caractère personnel des questions auxquelles il faut répondre. Le fait que les demandeurs d'asile LGBT originaires des pays où la persécution et ou la discrimination à l'égard des personnes LGBT sont très fréquentes, sont souvent incapables de parler immédiatement de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur statut intersexe, par exemple en raison de la méfiance ou de la peur. La crédibilité est peut-être l'une des questions les plus problématiques en ce qui concerne les demandes d'asile liées aux SOGI, car elles constituent un obstacle plus important que les autres demandes d'asile. La difficulté réside parfois dans le fait que la plupart des demandes restent non documentées et aussi dans le fait qu'il faut démontrer un aspect très intime de la vie. Les stéréotypes sont souvent présents dans les traitements des demandes d'asile et également tout au long du processus d'asile. Ces stéréotypes prennent souvent la forme d'attentes selon les pays occidentaux, comme l'existence d'histoires de coming out, l'engagement dans les militantismes LGBT, la fréquentation des espaces sociaux et nocturnes LGBT, la familiarité et la conformité active avec les critères attendus de la culture et des médias LGBT, le fait d'être sexuellement actif selon le SOGI que l'on s'identifie et le fait de ne jamais avoir eu des partenaires hétérosexuels ou d'enfants. Par conséquent, une formation adéquate sur les questions relatives aux LGBT et à la diversité est extrêmement importante pour les personnes travaillant sur ces dossiers d'asile. Pour obtenir les statuts de réfugiés, il y aura plusieurs entretiens pour que les autorités migratoires examinent chaque cas. Les entretiens sont cruciaux car, en fonction des informations fournies, les statuts seront accordés ou refusés. En conclusion, les réfugiés homosexuels doivent prouver aux autorités migratoires et aux juges qu'ils sont homosexuels, qui se craignent d'être persécutés en raison de leur sexualité, et cette crainte s'est fondée. L'issue des revendications dépend dans une large mesure de l'existence de preuves généralement inexistantes. Implicitement, les demandes de réfugiés homosexuels sont considérées comme faciles à faire et impossibles à prouver. En effet, il s'agit de l'un des motifs les plus difficiles à respecter d'un point de vue juridique à plusieurs niveaux. Convention Genève, système d'asile de l'Union européenne et loi nationale des États membres de l'Union européenne. La complexité des questions liées aux personnes LGBT ne fait aucun doute. Ce dernier point est important à noter étant donné que dans ces domaines spécifiques, la demande de protection internationale doit démontrer des aspects très intrinsèques et personnels de la vie d'une personne. Cependant, les autorités nationales ont le devoir non seulement de traiter ces demandes, mais aussi d'établir un traitement adéquat et équitable en tenant compte des différents besoins et de la diversité de la population LGBT. Il en va de même pour les autorités locales, les associations et les institutions privées impliquées dans les processus. Agissons, créons des réseaux et défendons nos droits.